Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui donnerait satisfaction au moins à la moitié de notre population, puisqu'il s'agit de la condition féminine, et notamment de celle de la femme artiste. Et en effet, je vais parler de la femme artiste, l'artiste femme, ou pour le dire autrement, des artistes de sexe féminin. Alors même si notre actualité l'établit comme un fait, je me sens presque obligée de poser cette question en raison du peu de publicité dont elles ont fait l'objet au cours du temps et donc dans le passé. Y avait-il des femmes artistes les siècles précédant le nôtre? Et qui sont-elles? Car force est de constater que des artistes dont on fait référence aujourd'hui, peintres, sculpteurs, littérateurs, musiciens, etc., sont plutôt masculins, à part quelques cas éparpillés comme par exemple le peintre de cour du XVIIe-XVIIIe siècle Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, l'écrivain-écrivaine du XIXe siècle Georges Sand ou le sculpteur, la sculpteur ou sculptrice, dites comme vous voulez, Camille Claudel qui, elle, doit une grande partie de sa notoriété à sa liaison tumultueuse avec le sculpteur Rodin et à sa vie brisée. Alors le sujet revient sur le tapis puisque nous avons droit pour le mois de mars à la journée de la femme, au mois de la femme même. Quel progrès à marquer d'une pierre blanche et attendre avec impatience le retour de cette période bénie qui nous donne l'illusion que féminité rime au moins avec les valeurs de notre République où tous les êtres humains, hommes et femmes, sont égaux, ne serait-ce qu'en droit et en devoir, et où liberté, égalité, fraternité sont unanimement partagées ou répandues sur tout à chacun. Et puis me vient en mémoire une discussion avec un monsieur que mon cas d'artiste, modeleur, sculpteur interloquait ou interpellait à l'époque et qui m'a gracieusement remis dans le droit chemin, si je puis dire, en m'éclairant, et ce pour affirmer avec l'assurance de ceux qui ne remettront pas en cause 2000 ans de patriarcat avéré que si on ne parlait pas de femme artiste, c'est qu'elle n'existait pas. C'est simple, il fallait y penser, mais comme nous le savons toutes ou presque, nous aurions aussi quelque peu un déficit de matière grise. Enfin, loin de moi l'envie de m'afficher comme une féministe, partisane du MLF, même si je le suis à mes heures lorsque je constate déséquilibre et injustice, ensemble générateur de limitations, de privations de liberté et donc propice à provoquer des souffrances. Bon, sachez tout de même que je clame bien haut et fort, en respect à mes camarades et amis, autant hommes que femmes, vivent les complémentarités fructueuses entre tous, dans le respect et l'épanouissement de chacun. Ceci dit, dans cette situation, face à ce monsieur, placé en position de curiosité locale, voire d'anomalie au fond de ma campagne, je m'étais dit déjà à l'époque qu'il serait peut-être temps de faire quelques recherches sur les femmes artistes, au moins pour nous rassurer un peu plus sur le fait que d'autres nous avaient précédés, autant déjà les plus anciens, et ainsi inscrire nos parcours d'artistes de sexe féminin, même s'ils sont personnels, dans une normalité humaine avec tous ses attributs, en général positifs mais aussi négatifs. Alors dans ce sens, j'espère multiplier les cas de femmes artistes, mais aussi, et de préférence, car elles en ont besoin, démontrer qu'en termes de qualité, les femmes sont au point. C'est avec plaisir qu'aujourd'hui j'aborde ce thème qui va nous propulser dans le passé aussi loin que possible pour nous le faire remonter jusqu'à nos jours. Alors les recherches que j'ai faites m'ont conduite dans l'Antiquité gréco-romaine, bien que l'Égypte antique nous donne témoignage, dans ses représentations picturales de personnages féminins jouant d'instruments de musique. Alors nous avons entendu parler de Sappho, la poétesse et musicienne de l'Antiquité ayant vécu au 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ et qui fut très célèbre en son temps. L'époque gréco-romaine et les activités féminines, notamment artistiques, sont surtout révélées grâce à Pline l'Ancien, distingué de Pline le Jeune, sénateur romain au service de l'empereur Trajan, et cela en raison de leur patronyme et lien de parenté. Alors Pline est quasiment contemporain du Christ et il a rapporté des témoignages sur la vie justement de ses contemporains qu'il a consignés dans des ouvrages nommés « Histoire naturelle » où il mentionne le nom de femmes qui s'adonnent à des activités artistiques et notamment la peinture. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. D'ailleurs, ce serait la fille d'un potier de Corinthe, nommée Dibutade ou encore Butades, qui se trouverait à l'origine de la peinture et de la sculpture. Car la légende nous rapporte qu'elle serait tombée amoureuse d'un jeune homme, dont la fatalité pour elle fit qu'il dut partir au loin, et pour garder sans doute un souvenir, elle aurait entouré de lignes l'ombre du visage de son bien-aimé projeté sur un mur par la lumière d'une lampe. Et son père, à partir de ce modèle en aplat, y aurait appliqué de l'argile pour le mettre en relief, puis le cuir pour enfin le durcir et ainsi le conserver. Alors une fresque pompéienne nous donne d'ailleurs une preuve visuelle d'une activité artistique pratiquée par les femmes, puisqu'en effet cette fresque met en évidence une femme en train de peindre. Alors je rappelle que Pompéi est la fameuse cité antique trouvée sous les cendres du Vésuve en Italie. Alors d'après ce que j'ai lu, bien des femmes peintres de l'Antiquité gréco-latine étaient filles de peintres, bon, ce qui facilitait certainement leur accès à cette pratique. Alors les noms vous diront peut-être rien ou pas grand-chose, mais ils témoignent de l'existence de ces femmes et c'est en majeure partie grâce à Pline qui les a mentionnées dans ses écrits. Alors il cite entre autres Aristarète, fille et élève de Néarque, Irène, fille du peintre Cratinus qui elle se serait spécialisée dans les portraits et tableaux, Timarette, la fille du peintre Micon le Jeune, qui elle aurait exécuté une Diane remarquée, Alastène qui a peint un danseur, Calypso, célèbre pour avoir peint un vieillard vénérable et un Théodore joueur de gobelet, et Lala, dont la dextérité en peinture lui valut une reconnaissance telle que ses œuvres valèrent plus cher que celles des plus célèbres peintres de sexe masculin de son temps. Alors de cette fameuse Lala, on nous dit, et je lis dans ses traductions trouvées sur Internet, qu'elle travailla autant au pinceau qu'au poinçon sur l'ivoire, et elle fit surtout des portraits de femmes. Alors tout cela a aussi été relaté par le poète, philosophe, écrivain romain Varron, né une centaine d'années avant Jésus-Christ, enfin dans ces eaux-là, qui nous dit en outre dans son traité des arts libéraux, et je lis encore une traduction, que Lala demeura vierge toute sa vie, sans doute par affection pour la peinture, jugeant bien que les distractions indispensables d'un ménage n'étaient pas fort propres à conserver au génie cette force et à la main cette légèreté qui font la gloire de l'art. Alors ces textes, ben, je le rappelle, je les ai trouvés sur Internet. Hein. J'ai essayé tant que faire se peut de recouper les informations en m'efforçant de vérifier les sources, car je ne suis pas tant familiarisée avec le monde antique. Bon, j'espère être quand même le plus juste possible. En tout cas, en ce qui concerne l'attitude de Lala, ben c'est ce que j'appelle être jusqu'au boutiste, hein, moi je peux le comprendre, mais vous verrez que les femmes artistes, et plus précisément des peintres et particulièrement celles de la Renaissance italienne, sont autrement plus catégoriques, voire incisives, et c'est le cas de le dire, car du maniement du pinceau, elles ont vite fait de passer à celui des armes, surtout lorsqu'il s'agit de défendre leur honneur. Mais auparavant, faisons un petit tour au Moyen-Âge avec la chrétienté répandue en Europe où nous rencontrons beaucoup de femmes dans les couvents qui pratiquent l'art de l'enluminure pour la plupart. Alors je rappelle que l'art de l'enluminure, avec ses techniques et effets bien particuliers, est utilisé au Moyen-Âge pour illustrer des écritures avec des ornementations colorées et la plupart raffinées. Alors je suis allée à la recherche de ces femmes, certaines véritablement des érudites et également écrivains ou musiciennes. Alors, je citerai parmi elles l'une dont la notoriété et le travail font encore écho de nos jours. Il s'agit d'Hildegard de Bingen, cette religieuse bénédictine, originaire de Rhénanie en Allemagne, née au XIIe siècle, qui en plus d'être sainte, mystique et visionnaire, puisque déjà à 3 ans, paraît-il, elle eut sa première vision, a acquis une grande renommée en tant que femme de lettres et compositeur, et celle-ci s'est étendue en son temps au-delà des frontières. Alors de cette femme certainement exceptionnelle, comme peut l'être un être humain qu'il soit homme ou femme, car on sait qu'elle fut une grande érudition, eh bien on constate que cela ne l'a pas empêchée d'assumer de concert son rôle d'abbesse de couvent avec celui d'artiste fécond. Alors pour vous donner un exemple, en musique, elle aurait composé 77 pièces liturgiques. Bon, c'est évidemment en lien avec la religion chrétienne, la vie et la parole christique. Alors ses visions et connaissances, elle les consignera dans des livres sur la demande, et c'est elle qui le dit, de Dieu lui-même. Et elle le fera malgré des hésitations, ses réticences, et publiera à 42 ans un premier livre nommé « Lessivias », qui signifie globalement « Connais les voies » ou « Sache les voies de Dieu », car ce livre est en rapport avec la parole divine. Alors apparemment, Hildegard de Bingen aurait eu une ligne directe qui a fonctionné dans les deux sens, ce qui n'est pas le cas du commun des mortels, même si le dicton nous dit toujours, et même par rapport à d'autres situations, qu'il faut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Bon, à part cette exceptionnelle disposition, il est à noter que l'homme, l'être humain, reste au centre de ses préoccupations. On va dire que si Dieu montre qu'il se soucie de ses brebis, Hildegard, elle, se préoccupe de la personne globale, notamment parce qu'elle est dotée d'un corps qu'il faut entretenir et soigner. Et en effet, elle écrira sur les maladies et les manières de se soigner, de se sentir mieux, et notamment grâce à l'alimentation et aux plantes. Et à titre d'exemple, je me souviens m'être procuré moi-même à l'époque, il y a quelques années, par curiosité, l'un de ses livres où elle donnait, entre autres, quelques conseils, on pourrait dire maintenant, de diététique. Alors il est dit également, concernant l'implication des femmes d'un point de vue notamment intellectuel, parce qu'elles réfléchissent quand même de temps en temps, que le traité le plus ancien sur l'éducation aurait été attribué à une femme nommée Duoda, qui était mère et donc aussi une éducatrice. Alors parmi toutes ces femmes, je citerai également Rotswit de Gandersheim, chanoinesse, écrivaine et poétesse du Xe siècle. L'Alsacienne Hera de Landsberg du XIIe siècle, elle est également abbesse, poète, enlumineuse, et c'est à elle que revient la réalisation de la première encyclopédie illustrée de l'histoire. C'est Marie de France, poétesse et auteure du XIIe siècle, Marguerite Porret du XIIIe siècle. La plupart de ces femmes sont aussi compositeurs ou compositrices, troubadours même. Elles chantent, jouent de la musique en Languedoc du XIIe siècle. Et c'est par exemple Béatrice de Die, dont les compositions sont parvenues jusqu'à nous. D'ailleurs, je suis tentée de vous faire entendre un petit extrait d'une création de Béatrice de Die, et c'est intitulé « A chantar, mère des sots contessa Béatrice de Dia », et nous allons l'écouter. Thank you. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez été charmé, le cœur attendri par cette douce mélodie et que vous êtes prêt à me suivre de nouveau dans la découverte des femmes artistes, en l'occurrence ici, celle du Moyen-Âge. Alors également, outre les poètes, écrivains plus ou moins intellectuels, compositrices, musiciennes, chanteuses du fond du Moyen-Âge, des noms dans Lumineuse parviennent jusqu'à nous grâce aux recherches des spécialistes en la matière, tel Guda du XIIe, l'Allemande Claricia du XIIIe siècle, Burgo du XIVe, pour ne citer qu'elles. Alors il est dit également que jusqu'au XIIIe siècle en Angleterre, les magnifiques broderies destinées au clergé et donc à l'église étaient réalisées par des femmes, et d'ailleurs les manuscrits de l'époque présentent les femmes œuvrant à l'aide de fuseaux. Alors, le travail du tissu, hein, cet art bien particulier qui demande finesse et dextérité, était bien souvent réalisé par elles. Alors, d'une manière générale, et aussi parce que les monastères, couvents, deviennent en quelque sorte les centres culturels de l'époque, les femmes qui y vivent peuvent révéler et développer leurs capacités artistiques, artisanales et évidemment intellectuelles. Ceci dit, l'enluminure étant devenue au XIIIe siècle une activité laïque, les femmes œuvraient aux côtés de leurs pères et ce furent les filles d'enlumineurs célèbres comme celle, par exemple, de Maître Honoré et Jean Lenoir, ou le cas de femmes qui reprirent le métier à la suite de leur mari. Cependant, la sculpture reste apparemment une affaire d'homme et la taille de pierre, notamment au XIIIe siècle, revient aux compagnons. Pourtant, dans le livre intitulé « Des claires et nobles femmes », écrit par Jehan Bocasse, un gentilhomme du XIVe siècle, livre qui se trouve apparemment à la BNF, la Bibliothèque nationale de France à Paris, une illustration, bon évidemment, que j'ai trouvée sur Internet, nous montre au milieu de femmes exerçant multiples activités, notamment artistiques, comme la peinture, l'écriture, la lecture, le tissage. Eh bien, ce livre nous montre une femme œuvrant sur une sculpture d'un personnage en dévotion. Alors, pour en revenir à cet ouvrage nommé « Des claires et nobles femmes », l'auteur présente des portraits de femmes historiques, légendaires ou de ses contemporaines. Alors, j'ai essayé de regarder, de lire, de faire des recherches pour confronter et justifier mes sources sur le sujet. Et au passage, bien, j'ai retenu, alors est-ce juste, que ce monsieur Jehan Bocasse, malgré tout l'intérêt qu'il portait à la gente féminine, pour leur consacrer autant d'écrits, restait néanmoins misogyne. Et à ce qu'il paraît, il aurait été échaudé par une dame, ce qui peut expliquer en partie son acrimonie, dans le sens où il ne s'est pas gêné, malgré certains portraits plutôt flatteurs, de rappeler l'infériorité de la femme par rapport à l'homme. Et pour lui, la femme intelligente et indépendante restait exceptionnelle. Bon, entre nous soit dit, je connais des femmes qui pensent la même chose des hommes. Et le meilleur compliment qu'il pouvait leur faire, aux femmes, c'est de leur trouver des qualités dites masculines. Alors pour en revenir à l'enluminure, les monastères dominicains de l'Allemagne méridionale semblaient productifs de codex enluminés. Alors codex, c'est un mot latin, et le codex correspond à un cahier composé de pages manuscrites, illustrées et reliées entre elles. On peut dire que le codex est en quelque sorte l'ancêtre du livre. Alors au XVe siècle, Marguerite Imhoff, Marguerite Carteserine, Barbara Gwisch-Mascherin, pour ne citer qu'elles, ont collaboré de manière fructueuse à l'élaboration de ces manuscrits, jouissant alors d'une grande renommée. Il semble avéré maintenant que les femmes religieuses de l'époque médiévale ont été très actives pour diffuser la culture en Europe grâce à leur participation, entre autres graphique et artistique. Or, je citerai encore Catherine de Bologne, religieuse italienne du XVe siècle, sainte, professeure, écrivain, artiste. Alors, autre femme dont la renommée a traversé les âges, je pense que tout le monde a entendu parler au moins une fois de Christine de Pisan, cet écrivain ou écrivaine d'origine italienne, mais adoptée par la France du XVe siècle, grâce à son père médecin astrologue à la cour des Valois. Elle a vécu grâce à sa plume, s'en est servie allègrement pour écrire des traités de philosophie ou de politique en plus de ses poésies, et elle fit également appel à des femmes peintres pour illustrer ses œuvres. Alors elle cite les femmes ayant participé à ses illustrations, notamment l'une d'elles nommée Anastasie ou Anastèse, qui aurait été une artiste très renommée à Paris et dont le travail valait très cher. Et des femmes, elle écrit justement ce que je vais vous lire. Si c'était la coutume d'envoyer les petites filles à l'école et de leur enseigner méthodiquement les sciences comme on le fait pour les garçons, elles apprendraient et comprendraient les difficultés de tous les arts et de toutes les sciences aussi bien qu'eux. Ce texte est tiré de la Cité des Dames, écrit en 1405 par Christine de Pisan. En tout cas, on peut dire, dans l'espace qu'elles pouvaient investir, les femmes ont été utilement productives et créatives, et ceci avec succès. Alors, nous sommes toujours en Occident, mais il semblerait que l'Orient ait compté des femmes à la fois de talent et de renom. Bon, vous savez qu'il y eut conquête de territoires en Occident, notamment en Espagne, occupés par divers peuples venus d'Orient. Et en ce qui concerne ces femmes, la plupart étaient femmes de lettres et poètes, certaines musiciennes. On répertorie apparemment des femmes issues de milieux lettrés, comme Aïcha al-Qurtubiya, une savante de surcroît, femme de lettres, poétesse du Xe-XIe siècle, décrite comme un grand esprit. Mais aussi une esclave qu'un calife aurait achetée pour éblouir les salons de son fils et que ce dernier aurait fini par épouser. Et celle-ci, nommée Radhidhya, était une femme de lettres dont l'esprit, également brillant, aurait suscité de l'admiration en Andalousie et en Orient. Or une autre, la nièce du conquérant Youssef Ben Tachfin, une femme de lettres encore, poétesse almoravide du XIe-XIIe siècle, nommée Hawa, aurait tenu salon. Alors elle est présentée comme l'une des premières féministes marocaines. Alors elle est almoravide, hein, il s'agit d'une dynastie berbère qui occupa l'Andalousie, donc une partie de l'Espagne et le Maroc entre les XIe et XIIe siècles. Bon, ils ont ensuite été détrônés par les Almohades pour partie du XIIe et XIIIe siècle. Et c'est Umm al-Ala, poétesse andalouse du XIe siècle également, Tamima, qui en plus d'être femme de lettres et fille du calife au XIe siècle, aurait été leader politique, pionnière du féminisme. Et enfin, Asma al-Miriya du XIIe siècle, qui est décrite comme l'une des plus grandes poétesses d'Andalousie. Bon, vous voyez qu'il y en a pour tous les goûts, si je puis dire. Donc les femmes ont bien rayonné dans les matières artistiques et dans diverses civilisations du globe. Et encore, nous ne savons pas tout et je n'ai certainement pas fait le tour de la question. Bon, en plus, je n'aborderai pas, car ce n'est pas le sujet, les femmes savantes, médecins, politiciennes, etc. Alors, ce qu'il y a de notable, c'est que de grands pans de l'histoire les ont quand même plus ou moins maintenues dans l'oubli, et c'est aussi bien d'en parler, car elles ont laissé des traces qui permettent tout simplement à l'humanité d'évoluer et de s'élever. Bien, nous allons clore ce chapitre de l'histoire des femmes artistes qui ne fait en fait que commencer. La prochaine fois, nous continuerons notre remontée dans le temps en passant de longs moments en Italie où il semblerait que les femmes peintres de la Renaissance aient été nombreuses et où, malgré les limitations et les interdits imposés par les hommes, elles aient réussi à laisser leur empreinte et à obtenir notoriété et succès, et ceci grâce à leur talent. Alors vous verrez également que certaines ont défrayé la chronique par leur comportement, nous dirons, impétueux, pour une cause légitime, celle de défendre leur intégrité physique, morale et leur honneur. Bon, en attendant d'aborder tous ces sujets, je vous dis au revoir et bonne préparation pour une future émission en compagnie des femmes artistes dont je me fais le porte-parole à Roblige. C'était Christine Darboux, La Voix des Arts, sur Radio Libre en Périgord, 102.3. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.